les amis.
Salut, salut Charline.
Je suis très 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 déçue de l'émission de vendredi.
C'était une émission parfaite. Le public était à fond, sachement beau.
Je ne demande pas au public s'il aime les brèves.
Ouais, standing ovation.
Ah bon, ça j'ai pas vu.
Mais moi j'ai écouté, en tout cas c'était brillant. Hein.
Oui, bah c'est ça, brillant. Bah, on a fait une Nadia Comaneci, voilà.
Touché au sublime, moi je peux partir tranquille.
Alex, tu arrêtes avec ces menaces de partir à Europe 1.
Non mais attends, moi j'ai écouté même la chronique de Hippo, je sais pas ce qu'il lui a pris, j'ai tout compris.
Clarté,
efficacité et rire, on était carrés quoi.
Vous trouvez pas ça déprimant?
Et Christine Gonzalez, c'était super.
Et Brigitte Fossé, elle était tellement émue par tous les gens qu'elle a fait parler.
Non mais c'est bouleversant parce que voilà, je les ai tous très bien connus. Et j'ai l'impression qu'ils sont là.
Oh là 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 là, mais moi j'en ai chialé.
Oui, ben voilà, ben c'était exceptionnel, ben voilà.
Ben
voilà.
Et alors
et alors, c'est pas ça que les gens attendent de nous, voilà.
Mais quand on fait des conneries, alors toi tu dis...
Est-ce qu'on serait pas en train de devenir une émission sérieuse?
Oh ben on n'est pas encore sur France Culture.
Attendez les gars, il faut se ressaisir là, hein. On n'est pas à la matinale, hein. Moi je veux pas devenir Léa Salamé. Hein.
Ouais, t'inquiète, il y a de la marge. Ça, ouais.
Heureusement, Pablo Mira était là pour faire une sacrée boulette.
On dit que boire, ça favorise par exemple la dépression, et bien pourtant...
Pourquoi vous me regardez?
Au hasard.
Voilà, voilà, c'est ça que les gens veulent.
Ah bah
voilà.
Merde.
Si on en est au point où c'est Pablo Mira qui doit sauver l'émission.
Oh. Moi, je vous le dis, on va dans le mur. France Inter, vous écoutez la start-up publique, c'est Open Space où pour se détendre, on joue au Air Babyfoot, parce que dans le service public, il n'y a pas de babyfoot. Les bénéfices du CAC 40 ruissellent à torrents sur les actionnaires. D'après le rapport d'Oxfam, la France est le pays du monde où ils se reversent la plus grande part, laissant les miettes aux salariés. Qu'ont-ils à dire pour leur défense?
L'argent est un chien qui ne demande pas de caresses. Il veut juste qu'on lui lance la balle de plus en plus loin pour pouvoir rapporter indéfiniment.
Les actionnaires de TF1, eux, sont bien embêtés avec l'arrêt de Koh-Lanta. Une plainte pour agression sexuelle a eu raison du programme et la presse livre en pâture le nom de la candidate qui a déposé cette plainte. Même sortie de la jungle, c'est encore la jungle.
Je sais pas quel est le plus dangereux, le serpent ou toi.
La ville de Bruxelles va remettre à neuf toutes les friteries dont elle est propriétaire. Elle promet une rénovation futuriste pour en faire les baraques à frites du nouveau monde. Qu'en pensent les Bruxellois attachés aux traditions? Lui, il se définit lui-même comme n'ayant pas toutes les frites dans le même sachet.
C'est pas faux.
C'est Alex Vizorek.
Bonjour Charline Vanhoenacker. Et aujourd'hui, tenez-vous bien, c'est une belle équipe est autour de la table à 17h20. Celle dont les choix de vie l'ont obligée thérapeutiquement à se tourner vers l'alcool, car si elle boit, c'est essentiellement pour oublier. C'est Juliette Arnaud, bonjour. Vous n'êtes pas reconnue, moi, tout de suite?
Si, je me suis bien reconnue. Alors aujourd'hui, Alex, puisque vous ne me le demandez pas.
Mais parce que
un
je sais que vous allez me le dire.
Qui fait mal aux pieds.
Oh là là, très bien. 17h30, celui qui a tourné ce week-end le premier clip de son groupe de rock En Marche, les Disruptives, le Jean-Louis Aubert de la Startup Nation. C'est Guillaume Meurice, bonjour.
Bonjour à tous, moi je me suis éclaté ce matin, je suis allé au grand congrès de l'Association Française des Sciences Économiques. J'ai rencontré des gens qui bossaient sur quoi?
L'impact du progrès technique sur la relation entre concurrence et investissement.
Oh la poilade! Oh la vache! On va se régaler, hein, je vous le dis.
Et enfin, 17h40, celui qui a surpris tout le monde vendredi dernier, car de A à Z, son billet était compréhensible. Alors, on espère que ce week-end, il a remis la main sur son dealer. Bonjour Hippolyte Girardot.
Bonjour. Bah, et ça va. Tout va très bien.
Ah, vous nous rassurez.
Un super sujet.
Tout à l'heure.
Allez, je me tourne vers celui qu'on a invité à s'installer dans l'Open Space. Vous êtes reçu premier au concours d'entrée à l'école du barreau, mais vous en sortez dernier parce que vous préférez fréquenter les salles d'audience que les cours. Vous serez néanmoins premier ex aequo du concours d'éloquence, ce qui vous permet d'obtenir un poste, et vous devenez avocat au barreau de Lille. Lors du premier procès d'Outreau, vous défendez Roselyne Godard, la boulangère, et au procès Erignac, vous défendez Jean Castella. Vous serez ensuite l'avocat d'Abdelkader Mera, de Théo, blessé lors d'une interpellation policière à Aulnay-sous-Bois. Vous défendez aussi Karim Benzema ou encore Jérôme Cahuzac. Vous êtes, je crois qu'on vous a reconnu, mais vous êtes, je vous laisse nous le dire.
Je suis Éric Dupond-Moretti.
Attention, c'est lui.
Charline Alex Vizorek.
Par Jupiter.
est-ce que le silence qui précède du Éric Dupond-Moretti, c'est déjà du Éric Dupond-Moretti?
Bien sûr.
C'est bien ce qui me semble.
Bienvenue maître. Vous publiez le dictionnaire de ma vie aux éditions Kéro. Alex Vizorek, je vous laisse avec maître Dupond-Moretti.
Oh là là, mais oui. On sent le courage.
Et bonne chance.
On sent le courage. Hein.
Nous, on se barre. Salut.
Alors, c'est une collection récurrente chez Kéro qui demande à des gens. Et les précédents, c'était Louis Chédid, Michel Leeb, Patrice Lecomte, Claude Lelouch. Et maintenant, c'est vous. Est-ce que c'est possible d'être une star en étant un avocat?
Une star, j'en sais rien, mais un avocat connu, oui.
Oui, mais est-ce que c'est pas ambigu d'être et un avocat et une star? Qu'est-ce que ça dit aussi sur...
Qu'est-ce qui est ambigu?
Non, c'est-à-dire que... Est-ce
mais
qu'à un
laissez-moi
moment...
répondre.
On va vraiment y aller, en fait.
Je savais que ça se passait comme ça. Allez-y, dites ce que vous
voulez. Objection, votre honneur.
C'est ce qu'il fait comme métier.
Pardon, oui.
Non, mais j'ai mis beaucoup d'années pour être connu. Je ne boude pas mon plaisir.
Oui, mais ça vous fait plaisir. C'était ça ma question presque.
Oui.
Très bien. Et donc, quand on vient vous voir, on vous dit vous avez 26 entrées à faire et vous parlez de depuis votre recette de spaghettis aux condamnations du FN à du recul sur votre métier. Comment on se met à son bureau et on se dit on va équilibrer tout ça et on va essayer de se raconter entièrement en 26 entrées?
Bon, d'abord, c'est pas entièrement. L'adverbe est un peu inutile. C'est partiellement.
Pardon.
Oui. Non, c'est un tout petit peu.
Soyez précis, vous aurez...
Moi, je suis coupable déjà. Donc,
mais non, mais bon, j'ai pas tout raconté.
Non, mais ça donne une image de vous, quand même.
Oui, ben, il faut en garder un peu pour la suite. Mais c'est le genre qui permet ça, le dictionnaire. Mmh. Vous choisissez vos lettres et donc votre thème. Et puis, on peut passer de la gravité à quelque chose de plus léger.
C'est ça qui vous a donné envie d'accepter cette collection-là?
Je trouve ça amusant, je trouve que c'est facile à faire et c'est assez facile à lire.
Je donne quelques entrées.
Je vous en prie.
Acquittement, hein, on s'y attendait.
Ouais.
W whisky
et là on s'y... C'est compliqué de trouver autre chose. Hein, W. Hein.
Alors évidemment, il y a ça, humanité, indignation. Opinion publique. Alors celle-là, évidemment, elle pose pas mal de questions parce que vis-à-vis de votre métier, vous êtes un petit peu vigilant par rapport à ce qu'elle peut penser et comment elle peut bouger.
Oui, bien sûr, parce que c'est d'abord l'opinion publique qui rend un premier verdict. Et le poids de l'opinion publique, c'est quelque chose que l'on doit mesurer et parfois contourner dans certaines affaires.
C'est nouveau ça ou l'histoire regorge? Enfin, est-ce que les médias d'aujourd'hui et les réseaux sociaux ont ajouté quelque chose à ce problème-là?
Les réseaux sociaux, c'est sûr.
Ça datait déjà.
Non, je pense que la justice a toujours été un sujet intéressant pour les médias, mais il y a beaucoup de médias aujourd'hui. Bien plus qu'autrefois, et puis il y a les réseaux sociaux. Donc, bien sûr, tout ça fait que l'opinion publique est très vite, souvent trop vite alimentée.
Je voudrais lire la lettre T, parce qu'évidemment ça pose tout le problème de comment choisir 26 entrées. Vous dites à la lettre T, j'avais choisi tauromachie. Ouais. J'avais décidé de répondre, je savais que ça allait exciter mon petit copain.
Ça se gâte.
Voilà. J'avais décidé de répondre à un écrivaillon vegan qui prétend que l'on ne peut pas être avocat et aimer la corrida. J'aurais sans doute évoqué le courage, la beauté, la tolérance, Picasso, le soleil, les couleurs, Hemingway, sans éviter la souffrance animale. Puis l'actualité a bouleversé mon projet et vous choisissez hashtag balance ton porc, oui. Ton thé, ton porc. Oui. Donc ça prouve effectivement qu'à un moment vous avez dû vous arrêter sur ça. Tauromachie, je vous laisse deux secondes avec Guillaume Meurice. C'est bête que vous n'ayez pas pu faire cette lettre.
Oui, pourquoi?
je vais lui en faire une à lui.
Ah bah, c'est ce que je me suis dit que vous alliez faire.
Pourquoi vous n'avez pas écouté ce que vient de dire votre collègue?
Si, j'écoute tout ce que dit Alexandre.
Non, il y a l'actualité, hashtag ton porc. J'ai choisi de traiter ça plutôt que la tauromachie.
Oui, mais si vous deviez, parce que vous l'auriez défendue cette tauromachie, vous aimez ça.
Mais je ne sais pas si elle a besoin d'être défendue. D'abord, c'est un droit, mais ce que je dis là-dessus, moi je dis qu'on a le droit de la détester, de la haïr, de ne pas y aller, mais on ne peut pas emmerder ceux qui l'aiment et qui ont envie d'y aller. Voilà,
mais c'est parce que ça pose justement un vrai problème juridique, c'est-à-dire qu'il y a quand même juste quelques départements en France qui ont le droit d'exercer. Est-ce que ça ne pose pas un problème de la France une et indivisible devant la loi?
Mais pas du tout, il y a des exceptions culturelles, il y a des exceptions régionales. Et la tauromachie, là où elle a toujours eu lieu...
Donc à
de façon...
un mètre de distance là vis-à-vis de la frontière, là on peut pratiquer, on peut torturer un animal et de l'autre côté on peut pas. Alors, c'est ça qui est étrange.
Voilà, je me doutais que nous irions...
ouais, parce qu'on n'a pas trop le temps. Du coup,
oui, c'est ça, oui.
Ouais, voilà.
Donc voilà. Donc il me balance ces trucs, finalement je peux pas répondre, donc c'est, il a gagné.
Si,
c'est une c'est une technique.
Ah, je peux pas gagner contre un maître de l'éloquence, normalement.
Alors, si, parce que... maître de l'éloquence peut être totalement idiot et quelqu'un qui va vite peut avoir de l'argumentaire, mais vous allez trop vite en l'occurrence, je vais quand même vous répondre. D'abord, on n'est pas hors droit parce que c'est la loi qui a prévu que dans les régions où il y avait eu de la la corrida de façon continue, on pouvait continuer à l'exercer. Bien. Comme chez nous, d'ailleurs, chez nous, dans le nord de la France et en Belgique, il y a les combats de coqs, qui n'existent nulle part ailleurs, c'est l'autre exception.
Sauf en Haïti, mais...
non, mais je veux dire en France, non, en France. Oui, en Haïti, en Guadeloupe, au Mexique, etc. Bon, ensuite, vous parlez de la torture, vous avez le droit de la qualifier ainsi, vous avez le droit de ne pas y aller, vous avez le droit de tout, mais ne m'interdisez pas d'y aller. Vous savez, un bœuf de stabulation que vous allez manger, à moins que vous soyez vegan, il vit 18 mois, on lui coupe les coucougnettes, il est en stabulation, il a les pattes tordues, il n'est pas en liberté. Je préfère, franchement, si j'avais à choisir, réincarner, être taureau en Andalousie.
Donc pour la défense de la tauromachie, vous prenez un argument qui est celui du pire, c'est-à-dire comme il y a pire ailleurs, on peut complètement continuer cette pratique. Ce qui est un peu faiblard comme ligne de défense, si je peux me permettre.
Mais pour anéantir la tauromachie, vous devenez animaliste. J'ai un rapport sans doute qui est différent du vôtre avec l'animal, une philosophie qui est sans doute différente. Je trouve que la corrida est un spectacle absolument extraordinaire, qu'elle met en valeur des choses comme le courage, parce qu'il faut
enfoncer
aller
des aiguilles à tricoter dans un chat, c'est aussi un super spectacle.
C'est pas du tout. Enfoncer des aiguilles à tricoter dans un chat, je sais pas si vous pratiquez cela. Moi, je ne l'ai jamais fait. Je ne me délecterai pas de ce spectacle. La corrida, elle est codifiée depuis longtemps. Et puis, il faut aller affronter un taureau de 450 kilos. Il faut en avoir. Ça n'est pas rien. Ce sont des choses, pardonnez-moi, qui me touchent. Mais si vous voulez que, au sortir de cette émission, nous pensions exactement de la même façon, que nous soyons à l'unisson, alors continuez.
Mais non, ça s'appelle le débat.
Je n'en doute pas une seconde.
Ça s'appelle le débat. Oui, il y a des auditeurs et des auditrices qui nous écoutent.
Non, mais ça, c'est pas le débat, c'est la polémique gratuite.
Bah, c'est pas de la polémique gratuite. C'est un vrai sujet de société.
Mais pardonnez-moi, si, bien sûr que si. Pardon. Vous savez, quand vous regardez une toile, au fond, le piment est dans l'œil de celui qui la regarde. Moi, j'aime ce spectacle, je le défends, je comprends que vous ne l'aimiez pas. Je dis aussi qu'il peut être parfois médiocre, qu'il peut être amélioré. Mais il existe et il fait naître en moi des choses qui sont de l'ordre de, sans doute, de l'indicible.
Est-ce que vous seriez pour une corrida sans mise à mort?
Mais c'est des conneries, une corrida sans mise à mort.
Voilà,
c'est des conneries.
Donc c'est pas
parce
le spectacle qui vous fait plaisir, c'est la mise à mort de l'animal.
Mais pas du tout. Le taureau est de toute façon euthanasié derrière. Donc tout ça, mais bien sûr que oui. Est-ce que vous voulez manger du steak sans tuer le bœuf, vous?
Bon, moi je veux pas manger le steak, mais là on part sur un autre débat.
Éric Dupond-Moretti est avec nous.
Connaissez le mieux, pardon.
Oui, bien sûr, dans le dictionnaire de ma vie.
Ce que je voudrais dire, très sérieusement là-dessus, c'est qu'on est quand même dans une époque qui stigmatise, selon moi, davantage les différences que ce qui nous unit. Et tout est sujet à polémique. Vous voyez, Macron boit un verre de vin, c'est une polémique. Miss France dit « Ah, mais il y a eu avant moi une crinière de lion », c'est une polémique. La corrida est une polémique, la chasse est une polémique. Les rapports entre les sexes deviennent aujourd'hui polémiques. Et puis, sans parler des communautarismes, ça c'est le pire du pire. Et on est, de ce point de vue, dans une époque singulière. Vous avez le droit de détester, j'ai le droit d'aimer, pardon, et on peut se tolérer.
On vient de Belgique, c'est moins présent, cette culture de la polémique.
Sans doute, doute.
Je vous le confirme. Bah,
c'est pour ça que vous êtes là tous les deux.
Nous, on a sorti les popcorns.
Vous venez pacifier un peu la France.
Oui, nous, on pacifie un peu le débat entre Meurice et Dupond-Moretti.
C'est pas une réussite jusque-là.
Maître Éric Dupond-Moretti est avec nous jusqu'à 18h. Oui, on vous a mis coup de fou fighting, mais c'est vraiment le hasard. C'est totalement le hasard.
Bien foutu cette émission.
Oh là là, là, ils sont chauds. Le dictionnaire de ma vie, donc aux éditions Kero. On va y revenir, bien sûr. Et puis on va parler frites et baraques à frites. Et bien sûr.
Enfin, on va être d'accord.
C'est pas sûr. Il y a un peu de bœuf là pour les cuire. Hein.
Moi je serais contre. Chopping them down. It's an ancient Chinese art, and
Douglas, Kung Fu Fighting sur France Inter. Et on peut dire que le duo Éric Dupond-Moretti, Guillaume Meurice, c'est tellement chou bouillant.
En tournée dans toute la France.
Il y a déjà 3 producteurs de télévision qui nous ont appelés. Éric Dupond-Moretti qui publie Le Dictionnaire de ma vie aux éditions Kéro, où il n'y a pas la tauromachie, c'est bien dommage, mais il y a Balance ton porc dedans. Et sa recette de spaghettis pour entourer Maître Dupond-Moretti.
Je vous le dis sur hashtag par Jupiter, les gens sont avec nous. Hein. Je tremble à chaque fois qu'Éric Dupond-Moretti va prendre la parole pour vous. Donc,
signé un taureau.
Non. Ah, signé Sandrine du 9-2, mais il est très gentil avec nous.
Signé hein, son filleul, ouais. Parce qu'il nous a confié qu'il était parrain d'un taureau.
Fadjine, que je salue.
Allez, ah, dimanche à la maison, ça doit être sympa. Hein.
Oui, je serai où, je me ferai inviter au dîner de famille chez les Meurs. Il y a Juliette Tardot, il y a Hippolyte Girardot aussi.
Un petit peu d'information.
Ah bah alors, hein, ça, c'est
on va se remettre d'équerre.
La faiblesse de nos démocraties contemporaines, c'est le nihilisme.
Le journal de presque 17h17.
Tu mens
Et on commence par les titres.
Suite à l'attaque au couteau ce week-end à Paris, Marine Le Pen juge les fichiers S inutile.
Oui, décidément, elle a un truc contre le travail de la police, déjà qu'elle trouvait inutile de se rendre à une convocation au commissariat.
Et c'est Israël qui a gagné l'Eurovision.
Oui, bah pour une fois, on peut vraiment affirmer que c'est le peuple élu.
Il y aura des brèves.
Oui, pour les brèves, 12 points.
Et on commence avec Olivier Faure, qui est donc le nouveau patron du PS. Hein,
ça fait quelques semaines, effectivement. Et justement, il se retrouve un petit peu empêtré dans des discussions depuis l'annonce du possible déménagement du QG à Ivry.
À force de diviser, c'est pas à Ivry qu'on ira. C'est en la Creuse.
Bam.
Wow.
Punchline. Mais comme il est malin, juste après.
Et je dis la Creuse, j'ai rien contre les Creusiens.
Il est brillant.
Passons au président de la République.
Oui, la statue d'Emmanuel Macron au musée Grévin a été dévoilée.
Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas vraiment ressemblante au président.
Disons pudiquement que la dernière chirurgie esthétique de Rachida Dati est plus réussie que la statue de cire du président.
C'est surtout qu'il a l'air plus austère.
Voilà, c'est comme sa politique au final, elle est beaucoup plus austère que prévu. Voilà.
Passons à l'affaire qui secoue la France, bien sûr, l'affaire Koh-Lanta, le candidat soupçonné d'agression sexuelle a été placé en garde à vue.
Oui, au pain sec et à l'eau, il aura quand même un petit peu l'impression de poursuivre l'aventure.
En France, toujours un cambriolage a eu lieu au zoo parc de Beauval, montant du butin entre 150 000 et 200 000 euros.
C'est énorme. Ça veut dire qu'à Beauval, il y a des animaux qui ont encore plus de cash dans leur poche que Claude Guéant. C'est énorme.
À l'international ce matin, l'ambassadrice d'Israël en France était l'invitée de Léa Salamé.
Et au fond du fond, est-ce que vous ne voulez pas reconnaître que l'Iran est une puissance régionale ?
L'Iran peut être une puissance régionale, mais en Iran.
L'Iran peut être une puissance régionale, mais en Iran. Et c'est vrai que tout le monde se contentait d'être une puissance régionale dans son propre pays, ce serait déjà pas mal.
Sport, c'est le choc car Joe Wilfried Tsonga se déclare forfait pour Roland Garros.
Qui reste en Suisse. Son bilan carbone sera meilleur pour un résultat identique à ce s'il avait participé.
Passons au football.
Oui, lors de la remise des trophées UNFP dimanche soir, remporté par Neymar, d'ailleurs de meilleur joueur, l'animateur de TF1 Jean-Luc Reichmann, qui remettait un des prix, en a profité pour adresser un petit tacle à toute l'équipe du PSG.
Il y a la Tour Eiffel sur le maillot de Paris. On aimerait avoir l'année prochaine des hommes qui se battent pour Paris, pour la France et pour le maillot de Paris.
Voilà, comme quoi on peut s'appeler Neymar, être transféré pour 220 millions d'euros et recevoir une leçon de l'animateur des 12 coups de midi.
Il s'en est remis ou pas ?
Et Neymar, il attend l'avis de Thierry Beccaro pour savoir s'il va rester à Paris ou non.
People, après sa chute sans gravité, Charles Aznavour promet de chanter avec une attelle au poignet s'il le faut.
Oui, à ce rythme-là, pour les prochains concerts, il va devoir avoir la même équipe technique que celle qui s'occupe d'Abdelaziz Bouteflika.
Des brèves.
Ouais, non, c'est pas gentil. Et des brèves.
Les taureaux, on a le droit, mais pas les vieux.
Les brèves.
Oui, un Chinois de 69 ans, double amputé des jambes, a escaladé l'Everest.
Ah, oh, c'est super.
Disons que je vois pas pourquoi un mec qui a perdu les deux jambes se dit tiens, comment je vais faire pour aussi perdre les deux mains ? Mais il est arrivé.
La dernière.
Et la dernière aux États-Unis, ivre virgule, il tond la pelouse de ses voisins. Alors, il y a l'alcool gentil, il y a l'alcool méchant, et puis il y a l'alcool pratique.
Merci Alex.
Mais de rien, c'est cadeau.
Éric Dupond-Moretti est avec nous. Et la France est le pays au monde où les actionnaires se gavent le plus. Les entreprises du CAC 40 sont celles qui reversent le plus de bénéfices et de dividendes à leurs actionnaires. Sur 100 euros de bénéfices, plus de 67 euros leur revient. Et pour les salariés, il reste 5 euros quand même. Comme une APL, quoi. 27 euros sont réinvestis dans l'entreprise. Bon, une solution, tous actionnaires. Allez hop.
Dites-moi, Dolores,
Mais d'où vient tout cet argent?
Mes économies. L'argent que j'ai gagné avec ma soeur.
Et vous, Conception?
Moi, je les garde dans la boîte à cirage.
Mais enfin, l'argent, ça se place.
Ça se place?
Mais oui, bien placé, ça peut vous rapporter.
Ça veut dire quoi, bien placé?
C'est en bourse. Vous voyez, c'est très simple, je vais vous expliquer.
Non, n'écoutez pas. Ces capitalistes, c'est tous des bandits.
Dans le marché des cotations, il y a d'un côté les actions et de l'autre les obligations. C'est quoi une action?
Pues une action est quand tu veux faire une chose et tu l'as fait.
Oui, mais alors disons que dans la bourse, c'est différent.
Les femmes du sixième étage, le film de Philippe Le Guay. Voilà, c'est un rapport d'Oxfam et du Bureau d'analyse sociétale pour une information citoyenne. Éric Dupond-Moretti, un commentaire, point d'interrogation?
Non, non, pas de commentaire, non, non. Je suis toujours sous le choc.
Du gars qui tend la pelouse de son voisin.
Du gars qui tend la pelouse, ouais.
Voilà, c'est ça. Donc, oui, parce qu'on ne connaît pas tous les dossiers que traite Maître Dupond-Moretti et on va donc passer à Juliette Arnaud.
Mais on peut expliquer que vous ne pouvez pas parler sur certains dossiers, non? Celui-là, quand vous n'avez pas envie.
Non, je n'ai pas envie, non. D'abord, il y a les affaires en cours, on n'en parle jamais. Il y a le secret de l'instruction. Puis moi, j'ai pas pour habitude, alors vraiment, de parler de dossiers que je connais pas. Donc, je préfère m'abstenir.
Nous, ça, c'est notre grande spécialité. Si un jour vous avez un dossier que vous connaissez pas, vous passez un coup de fil, une demi-heure, trois quarts d'heure, et on est.
Nous, on s'en occupe. Hein.
Mais c'est si vous pouvez avoir un avis sur le fait que dans la société, de plus en plus d'argent est redistribué directement aux actionnaires, donc des gens qui sont rentiers, donc qui foutent rien, et de moins en moins aux gens qui créent la richesse, qui sont les salariés. Ça, on a le droit d'avoir un avis en tant qu'être humain, en tant qu'avocat.
En tant que
lui, il est devenu mon directeur de conscience en 30 secondes. Je ne le connaissais pas avant de venir. Je pense qu'il va me suivre, d'ailleurs. À la fois, je vais faire une psychothérapie chez lui, je vais essayer de me guérir, et en même temps, il va devenir mon directeur de conscience.
C'est la première fois que l'invité choisit les sujets, donc non.
Dans la prochaine édition du Dictionnaire de ma vie, à M, il y aura Meurice, c'est certain.
Ça, c'est sûr, ça. Je pense même que je vais lui consacrer un livre à lui tout seul.
Oh, il y a une passion naissante entre vous, c'est beau, c'est beau. Juliette Arnaud, tiens, parlons aussi littérature.
Oui, parlons littérature.
Dans ce cas-là, c'est mieux.
D'autant que aujourd'hui, un livre, donc, comme je l'ai précisé, qui fait mal aux pieds. Alors, je ne me paye pas de formule à tout prix. J'ai beaucoup pensé à mes pieds pendant cette lecture parce que c'est le récit vrai d'une randonnée. Alors, pas la randonnée du dimanche, celle de comédie. Vous savez, on se balade en groupe, après le barbecue, on se perd, il y en a un qui beugle. Ah, tu nous la copieras, ta balade Popeye. Là, c'est l'écrivaine donc, de ce livre, Wild, Cheryl Strayed. Elle a fait le Pacific Crest Trail, qui est un chemin de grande randonnée de la Sierra Nevada jusqu'à la frontière du Canada, 1700 km sur les crêtes des montagnes, 2 mois de marche alternant désert et neige. Tout ça pour arriver à un pont nommé Pont des Dieux. Bon, c'est joli. Et penser la chose suivante. Elle pense quoi, Cheryl? Elle dit « Je ne me trouvais plus complètement nulle. » Et je n'étais pas non plus une putain de guerrière Amazon. Oui, alors je vous spoil un peu le truc. C'est ça le résultat de la quête de Cheryl Strayed. Rien de plus, c'est la queue de son Mickey à elle. C'est normal. Cheryl n'est pas un chevalier de la table ronde. Elle ne galope donc pas derrière le Tupperware qui a contenu le sang du Christ. Elle n'est pas Ulysse. Il n'y a pas de royaume et de famille à récupérer. Elle n'est pas Orphée. Ce livre, Wild, c'est pas rando aux enfers pour arracher une fiancée à la mort. Une quête donc qui n'est pas spectaculaire. C'est normal. Elle n'est pas un héros. Elle n'est pas un homme. Elle n'est qu'une femme. Aussi douée au départ que Bernard dans Les Bronzés. Mais ça n'empêche pas le récit d'être haletant. C'est même sauvage parfois. C'est surtout gavé de péripéties. Dont, par exemple, être couverte par une armée de fourmis noires pendant une sieste, un ours noir dont on n'est pas sûr qu'il n'est pas brun, parce que j'ai appris dans ce livre que c'était les bruns qui étaient dangereux pour les êtres humains et pas les noirs, des serpents à sonnettes qui font bronzette sur le chemin, des hommes plus intéressés potentiellement par le viol que par le goût de la nature, tiens, ça me rappelle un truc, et pire que tout, avoir un sac trop lourd et des chaussures trop petites jusqu'à perdre quasiment tous les ongles de ses pieds. C'est un livre également émouvant, terriblement émouvant, parce que c'est la note persistante du livre, le souvenir de la mère de Cheryl, une mère aimée, adorée, idolâtrée et emportée quelques années auparavant par un cancer aussi brutal que vif. Cheryl, dit-elle, veut redevenir, grâce à ce chemin, la fille que sa mère a élevée. C'est qu'avant de faire ce chemin, Cheryl Strayed n'était pas parvenue à se relever de la mort de sa maman. Alors il lui restait bien un mariage avec un homme qu'elle aimait, mais ce mariage, elle l'a désingué. en plongeant dans des addictions variées, la drogue, la dure et le sexe. Oui, la nymphomanie, c'est pas une blague, c'est pas un truc vaguement émoustillant, c'est une maladie. L'humilité, vous dis-je, l'humilité en toute chose, parce que c'est le principe des gens qui marchent, mettre un pied devant l'autre et recommencer. Alors oui, je sais bien, ça ressemble peu à ce qui fait triper nos contemporains, hein, pas de saut à l'élastique dans le vide, on n'est pas à éclater des records de vitesse, on n'est pas à faire tout ça devant des caméras ou en se filmant soi-même, pas de jet ski, pas de propulseur, pas de fusée, des pieds, deux, et gogo Margot, marcher seul, manger des saloperies déshydratées seul, et enfin dormir seul dans sa petite tente, seul comme tant d'autres marcheurs qu'elle croit sur sa route, sauf que elle, Cheryl, c'est une femme. Elle écrit ça. Elle dit « J'avais décidé de me raconter autre chose que ce qu'on raconte aux femmes. J'avais décidé que je ne courais aucun danger. J'étais forte, j'étais courageuse. Rien ne pourrait me vaincre. » Pourquoi est-ce qu'elle fait tout ça? Peut-être pour se retrouver la nuit à lire « Tandis que j'agonise » de Faulkner à la frontale la nuit, avec le bruit des étoiles et l'incandescence des bêtes nocturnes. « Tandis que j'agonise », ce roman de Faulkner, donc composé uniquement de monologues intérieurs. Et croyez-moi, des monologues intérieurs, quand tu marches seul pendant des semaines, t'as le temps d'en faire un certain nombre. Et je nous souhaite à tous ce genre de prouesse. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, rappelez-nous le titre et l'éditeur.
Alors ça s'appelle « Wild ». Elle, c'est Cheryl Strayed et c'est pas cher parce que c'est chez 10-18.
Merci, Juliette Arnaud.
Monsieur l'avocat a pris des notes pendant la chronique.
Oui, oui, j'ai pris des notes. Oui. J'ai noté en particulier que la nymphomanie était une maladie.
Voilà. Ah, au même titre qu'une addiction. Enfin, je sais pas. Oui. Souvent, c'est très gaulois quand on pense nymphomane, ça fait rire tout le monde, une femme nymphomane. C'est pas drôle.
Non, mais c'est vrai, vous avez bien fait de le rappeler. Mmh, ouais.
On apprend des trucs hein, dans cette émission. Voilà.
Là, on a une c'est très, très intéressant. Moi, je regrette vraiment de moins en moins d'être là.
Ça, vous n'avez pas fait ça, ou cette meuf, la dernière fois
chez Demorand. Non, c'était pas tout à fait la même ambiance. C'était chaleureux, c'était bienveillant, c'était...
Eh bien, on a des auditeurs en ligne.
Et on a Bernard Lavillier, en plus. Ah, c'est cool, non?
Ça, c'est de la première.
Oh bah oui, évidemment. Muse. Allez, vas-y, Bernard, chauffe sur France Inter.
Main d'acajou, barretto magnifique, les yeux fermés sur un transatlantique. Joue, joue. Rêve de Ravel, de Mozart et de France. Combo cuivré, mais c'était pour la danse, pour la danse, pour la danse. Danse cambrée des tambours de Dakar, tourbillonner les pagnes du sabbat. Je rêve, je rêve. London Guy Rose, respecté de partout, des présidents intimes de Youssou, Youssou Nour. Si jamais tu te casses, si jamais tu te tires ailleurs, si jamais tu te lasses de ma voix et de ma chaleur, si jamais tu t'en vas sans un moment douceur, je serai sur tes pas, je suivrai ton odeur, ton odeur. Bois qui saigne et la forêt qu'on brûle, les caillapos vidés de leurs tombeaux. Sauvage, sauvage. Voleur de terre sur le petit chevau, de cartouchières croisées sur la poitrine. Sauvage, sauvage. Si jamais tu te casses, si jamais tu te tires ailleurs, si jamais tu te lasses de ma voix et de ma chaleur, si jamais tu t'en vas sans amour en douceur, serai sur tes pas, je suivrai ton odeur, ton odeur.
Il est 17h39 sur France Inter, à Paris et à Coussolres, c'est près de Maubeuge.
C'est ça.
Oui, c'est là où a grandi le petit Éric Dupond-Moretti. Il est donc, oui, cette heure-là partout en France.
Oui, ça c'est vrai.
Éric Dupond-Moretti est venu nous voir pour le Dictionnaire de ma vie, paru aux éditions Kéro. On va parler frites bientôt avec Maître Dupond-Moretti.
C'est la grande promesse de l'émission.
Mais bien sûr, ça c'est la grande promesse. Mais avant, votre nouveau camarade.
Bonjour.
Je vais lui saboter son truc. Je vais faire des...
Plus vous interrompez, plus ça rajoute des droits d'auteur.
Des claquements,
n'hésitez pas, si un jour j'ai besoin d'un avocat, ça me paiera les honoraires. Non, je voudrais fêter le bicentenaire de la naissance de Karl Marx aujourd'hui. Déjà 200 ans, dis donc, ça filoche. Hein. Gérard Collomb pourrait être son grand frère, c'est fou. Alors il y a des commémorations en Europe, mais en France c'est assez calme. Ce matin, Dominique Seux, il a repris deux fois des œufs de limpe au petit déjeuner, comme d'hab, quoi, enfin, rien de spécial. Alors c'est vrai que Karl Marx, bon, ça sent les conférences à la MJC Pablo Neruda dans la Creuse. J'adore les creusois, hein, c'est pas la question, comme Olivier Faure. Mais Marx, voilà, ça sent le taboulé, les pulls jacquard, l'odeur de pipe, les colliers de barbe, bah, ça sent l'auditeur de France Inter. Mais pas que, je voudrais vous faire réécouter un extrait d'une interview d'Emmanuel Macron que j'avais faite alors qu'il était ministre de l'économie. C'était en décembre 2015 et je lui demandais son livre économique de référence.
Je vous dirais que l'un des livres les plus importants dans ma réflexion sur l'économie, ça a sans doute été Le Capital, de Karl Marx.
Ah oui, c'est une provocation, là.
Parce que, non, mais c'est une réalité.
Mais c'est une réalité, Manu le bolchevique à l'époque, hein, puis on connaît la suite, voilà, il a créé le mouvement En Marx. Voilà, voilà, et voilà, il voulait prendre Philippe.
Consternation chez l'avocat de la générale.
Voilà, il voulait prendre Philippe Martinez comme premier ministre, et puis ouais, il a été bouffé avec Jacques Attali, et puis il a dit non, on va faire autrement, laisse tomber, on connaît la suite. Alors pour parler de Macron et de Karl Marx, je suis allé ce matin au grand congrès de l'Association française des sciences économiques, ça ne veut rien dire. Autant vous dire que niveau d'école, on n'était pas hyper haut, hein, sur l'échelle de la constipation. On était entre Michel Houellebecq et Julien de Normandie. C'est pas foufou. Et j'ai rencontré plein de spécialistes à qui j'ai soumis le problème. Hein, d'abord un économiste qui travaille à l'aide des neurosciences. Macron est inspiré par Le Capital, donc.
Ça ne m'étonne pas.
Vous, ça ne vous étonne pas?
Non.
Non. Mais alors, qu'est-ce qu'il a de marxiste aujourd'hui, Emmanuel Macron?
Là, c'est une question beaucoup plus difficile.
Ah, mais c'est pas facile, ça.
Non, là, les neurosciences ne m'aideront pas.
Non, ça risque de rester une énigme, hein, comme le triangle des Bermudes ou les chroniques d'Hippolyte. Ça ressemble même, je dirais, à de la dissonance cognitive. Hein, on connaît bien le principe. C'est comme les gens qui aiment les animaux et qui les torturent. Hashtag Dupond-Moretti. Comme les gens qui torturent les humains, comme les gens qui aiment les humains, d'ailleurs, et qui écoutent Finkielkraut. Enfin, il y a plein d'exemples de dissonance cognitive. C'est un petit peu baisé quelque part dans le cerveau, à moins que ce soit
un calcul stratégique machiavélien.
Vous pensez qu'il serait capable de ça, Emmanuel Macron ?
Pas d'idée là-dessus.
Donc il serait à la fois Karl Marx et Alain Madelin.
Pourquoi pas ?
Ah, ça c'est une belle hypothèse, voilà. Alain Madmarx, c'est pas mal. Je vous rappelle qu'on est dans la recherche en sciences économiques, donc on avance à tâtons. Alain Madmarx ou Karl Malin. Hein ? Non, mais c'est vrai que Macron, il est malin, ça fonctionne. Ça vous convainc pas, d'accord ? Alors avançons sur une autre hypothèse sur Karl Marx.
Je pense qu'il faut dépasser un peu les caricatures. Là, on est dans une discipline, sciences économiques, qui apporte de la rigueur, qui apporte de l'analyse, et qui dépasse souvent tous ces clivages, qui sont un peu tristes, quoi. Le clivage droite-gauche, honnêtement, c'est pas passionnant.
C'est-à-dire que Marx, il est et de droite et de gauche.
Oui, allons-y en même temps. Allez,
ah oui, alors ça, je dois dire que c'est assez nouveau comme analyse. Ça me plaît bien. Voilà, en fait, ça serait pas Macron qui serait marxiste, mais Marx qui serait macroniste. Et ça, j'aime bien. Bah, on sait que Jaurès a tout lu Cambadélis, donc voilà, c'est pas étonnant. Hein, on sait que Pinochet s'est beaucoup inspiré de Robert Ménard, donc ça me plaît. Mais j'ai encore mieux. Macron serait plus proche de qui ?
À mon sens, ça serait pas Marx, ça serait plutôt les socialistes proudhoniens du 19e siècle français. Je dirais plutôt que Macron serait plus proche d'une certaine vision socialiste, utopiste française traditionnelle.
Ah oui, vraiment, ouais.
Oui, bien sûr. Au départ, il y a une vision humaniste des choses. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui a réfléchi.
Ça, il a réfléchi, mais le côté humaniste...
Si, bien sûr, que si, à long terme.
Ah voilà, oui, d'accord, voilà. C'est à long terme. Oui. On va attendre un petit peu 200 ans hein, pour s'apercevoir du côté humaniste d'Emmanuel Macron. Je le dis d'ailleurs aux étudiants, aux cheminots, aux réfugiés qui nous écoutent, vous verrez, sur le long terme. Là, vous ne voyez pas, parce que vous avez la lacrymo dans les yeux, mais ça va aller mieux, vous serez aveugle et vous verrez mieux. Parce que Macron, c'est quoi ?
C'est l'idée qu'on peut faire progresser le bien-être des gens qu'en agissant dans un premier temps sur l'économie, surtout quand l'économie dans laquelle on vit ne va pas. Donc le but ultime, c'est bien le bien-être des gens.
Oui, 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 ça, c'est vrai que Macron, il est là-dedans. Moi, je discutais avec François Pinault qui me disait, bon, c'est un mec qui fait beaucoup pour mon bien-être. Alors, on peut pas s'occuper de tout le monde, hein, bien sûr. C'est un gars, voilà, qui est très sollicité. Mais dès qu'il a un petit peu de sous en poche, ben, il le place chez Rothschild, notamment pour aider, parce qu'il veut le bien-être des gens. Donc, je crois qu'on a une bonne vision des rapports de Macron à l'économie. Alors, terminons peut-être avec un petit conseil lecture avec un dernier économiste.
Est-ce que vous conseilleriez plutôt un livre d'Alain Minc ou un bouquin de Karl Marx?
Écoutez, bon, je sais pas, il faut être ouvert à tout. Il faut ouvrir sa culture. Ça, voilà. Donc, il faut lire les deux et puis aussi d'autres ouvrages.
Voilà, lisez tout, soyons ouverts. Bon, après, si vous n'avez pas trop le temps, commencez peut-être par l'intégrale de Bernard Maris. Parce que pour mieux piger, voilà, pour moins se faire niquer, voilà, c'est ça qui est capital.
Merci Guillaume Meurice. Pour être ouvert à tout, alors Guillaume, vous allez lire Le Dictionnaire de ma vie, édition Quéraud, d'Éric Dupond-Moretti.
Vous y apprendrez la nuance.
Je vais vous lire la nuance, Dupond-Moretti.
Attendez, je vais quand même dire deux mots sur votre chronique, ouais, qui est quand même fabuleuse.
C'est pas obligatoire, hein.
Voilà Macron qui a lu Marx. Et il le dit au passé, d'ailleurs, ça ne vous a pas échappé. Il dit, c'était un livre de. Donc c'est autrefois, c'est le passé. Et vous en faites un marxiste.
Je pose les questions.
Et alors là, je me dis quand même que mon nouveau directeur de conscience, mon nouvel ami, puisque désormais nous sommes amis, nous sommes indéfectiblement liés, va quand même un peu vite en besogne. Voilà tout ce que je voulais vous dire.
Je pose la question de savoir où se cache le marxisme.
Mais avec beaucoup d'affection de ma part. Hein.
Oui, mais bien sûr. Ah,
c'est beau.
Est-ce que vous voulez un extrait de la nuance chez Dupond-Moretti?
Non, on veut parler des frites.
C'est dommage, j'en ai plein les pages. Poussé par de puissants lobbies, franchissant allègrement des limites naguère intangibles, les véganes assènent les principes du rédemption simpliste. Vous voulez un câlin, Eric? Vous avez peur des véganes, sans déconner? Vous avez peur des mecs qui mangent du quinoa?
Regardez à quel point je suis allé dans la nuance. Je dis d'ailleurs,
on la voit bien.
Non, mais quand vous allez par exemple à Nîmes, vous allez voir ce spectacle de tortionnaires. Il y a des types qui se démerdent pour vous maculer la chemise de peinture rouge. Et on s'est rendu compte que parfois ils étaient poussés par des lobbies. Et par des lobbyistes qui sont très très proches des véganes. Parce que les véganes ont intérêt à ce qu'on ne mange plus de viande. Ça ne vous a pas échappé, cela?
Ils ont intérêt.
Non, mais ça fait partie de la réflexion globale.
C'est même pas un intérêt financier. C'est une idéale de société.
Pardonnez-moi, je tiens à redire ici. Sans doute suis-je...
Moi, j'adore la bidoche, ne me regardez pas moi. Hein.
Non, mais je
suis fou de steak, de tandouillette.
Mais avec des frites.
Non, ce que je veux simplement dire, c'est que on peut ne... Je l'ai déjà dit, pardon de me répéter. On peut ne pas aimer, on peut aimer, mais on n'est pas obligé d'en faire un sujet polémique. Je veux dire, vous n'avez aucune vocation à me dire comment je dois me comporter et ce que
ça
je dois...
Ça s'appelle la loi.
Mais la loi est de mon côté pour le moment, alors changez-la.
Évidemment, c'est ça être citoyen, c'est vouloir changer la loi.
Si je vais voir une corrida à Roubaix, la loi est de votre côté parce que ça n'existe pas. Si je vais la voir devant les belles arènes de Nîmes ou
mais
de Bayonne,
mais moi je veux pas vous foutre en taux là. Je veux que vous assumiez votre sadisme.
Moi j'aimerais qu'on parle des frites.
Mais laissez-moi avec mes contradictions, mais ne venez pas me dire ce que je dois aller voir. De grâce.
Mais faites bien ce que vous voulez,
je m'en fous complètement. Qui vous comble.
Voilà, je vais voir le spectacle d'Alex Vizorek.
Je suis en tournée dans toute la France. N'hésitez pas à venir.
On peut y aller ensemble, écoutez.
Moi, à un moment, je voulais parler des frites.
Vas-y, Charlie.
Puis ça s'est pas mis, quoi.
Vas-y, Charlie, parle des frites.
Déconstruite l'émission un petit peu.
Les frites, ça va faire polémique ou pas?
Pas avec vous sans doute.
Si vous voulez, on peut faire d'abord Hippolyte Girardot. Si et puis comme ça, on garde les frites. On garde les frites pour la fin, parce qu'Éric Dupond-Moretti, on sait ce qui est bon et ce qu'on peut garder pour la fin. Bah c'est parti.
Moi, j'ai fait une petite. Bon, j'ai fait une petite chronique dictionnaire, quoi, puisque c'est un sujet, parce que c'est vrai. Bon, le dictionnaire de ma vie, je savais pas que c'était une collection. Enfin, je sais qu'il y a plein de dictionnaires partout, tout le temps, sur plein de sujets, etc. Et je trouve ça pratique et même nécessaire. Par exemple, moi, depuis un an, j'ai une appli Dico dans mon téléphone portable, parce que avec Emmanuel Ier, faut suivre. Par exemple, quand il a prononcé le mot ipséité, on a lu qu'il aurait pu dire individualité, me dit le dictionnaire. Mais aussi, on a lu que Paul Ricoeur, le fameux philosophe, le maître d'Emmanuel Macron, distinguait ipséité de mêmeté. Alors évidemment, à ce niveau-là, mêmeté, ipséité, oui, il fallait un dictionnaire. Donc, vous, par exemple, merci au vôtre, parce que grâce à ça, à la lettre C, comme cuisine, vous nous donnez la recette des spaghettis à la ciboulette. Ben, je ne savais pas qu'on pouvait mettre de la ciboulette dans des spaghettis, donc voilà, j'ai appris quelque chose. Enfin bref, un dictionnaire c'est vivant. Voilà, ça, ça bouge, ça bouge tout le temps.
Bah non.
Ben c'est marqué à la fin, il y a marqué Ciboulette.
Il, faut, non, il faudra mais, le lire, non, Eric, ce livre, à un moment donné. On ne peut pas faire écrire des livres par des gens.
Regarde comment ils ont dit. Il est mesquin. Non, c'est pas possible. Petit joueur. Non, il y a une pincée de Ciboulette. C'est pour le minimum. C'est pour la décoration, c'est pas pour le goût. Voilà.
Non, c'est bien de le préciser.
C'est bien de le préciser, oui. Je ne sais pas si c'était comme ça que c'était écrit. Enfin bref. Oui, non, un dictionnaire, c'est intéressant parce que.
Non, bon,
on va suivre dans le fond, là, s'il vous plaît.
Mais il n'y a pas de beurre dans ses spaghettis.
Non, mais c'est lui qui c'est... il arrête pas de se
Madame, bon. C'est Eric lui qui commence en premier.
Si ça continue, je vous mets au coin tous les deux. Oui, parce qu'un dictionnaire, c'est vivant, ça bouge avec le temps et les mœurs. Par exemple, une femme. Bah, c'est quoi une femme? En 1680, dans le dictionnaire du François, et pas du François comme Fillon ou Hollande, mais du français, parce qu'à l'époque on disait François, à l'époque, je le dis pour nos auditeurs, la femme est une créature raisonnable faite de la main de Dieu pour tenir compagnie à l'homme. Hein? Méditez ça, Juliette, méditez ça. Et la définition est accompagnée, non mais la définition est accompagnée d'un commentaire. Prendre une femme est une étrange chose et c'est bien fait d'y songer toute sa vie. Donc comme ça, on voit que la langue française était misogyne, tout à fait officiellement. Et il y a des preuves, par exemple, dans ce même dictionnaire, comment, on donne un exemple pour le mot imbécile et on dit elle est imbécile. Et pour le mot intelligent, on dit il est intelligent. Bon. Les dictionnaires donc évoluent avec nous, comme nous, et chaque année de nouveaux mots sont intronisés, notamment au Robert. Et cette année, le gourmand que vous semblez être, maître, appréciera qu'enfin le fonio rejoigne le choucal pour les amateurs de krumeski abreuvés de rooibos, voire d'açaï ou de kombaya après de multiples spritz pour éviter la loose après ingurgitation du CHB. Voilà. Alors pour tous ces mots entrés dans le dictionnaire Robert, enfin chez les Robert, le petit et le grand, car les Robert vont par pair, c'est la consécration. Et un autre entronnement vaut celui du Robert, c'est celui de la rue Toz. Des os, pas des os, TG, scoman, schlag, cossa, timp, chais, patiente encore dans la street avant d'accéder à la sélection officielle comme l'a fait Cosplay en 2018. Bon, au niveau des expressions, il y en a une que j'aime beaucoup, qui date un peu puisque le clip de Soprano date de 2007, c'est à la bien.
À la bien, cousin. Envoie-moi comme Marseille, on le fait. Pour les mecs en bas des blocs, on le fait. Pour les frangins enfermés, on le fait.
Voilà, c'est Made in Marseille, grand pourvoyeur d'expressions géniales et de grandes joies, notamment, j'espère, cette semaine, avec des Olympiens qui, on l'espère, on le souhaite, on le veut, vont nous la faire à la bien.
Envoie-moi comme Marseille, on le fait. Pour les mecs en bas des blocs, on le fait. Pour les frangins enfermés, on le fait. La famille, tu as compris.
À la bien.
Merci, Hippolyte Girardot. On peut parler frites maintenant, voilà. Avec Eric de Pomorati, s'il vous plaît, parce que quand même, Bruxelles se lance dans une opération à risque, inventer la baraque à frites de demain. La ville est propriétaire de 8 friteries qu'elle veut entièrement rénover avec des miroirs, un bazar futuriste pas possible, Eric. Le but est d'en faire un lieu aussi identifiable que la cabine téléphonique à Londres. Non mais voilà qui va peut-être changer la vie des vendeuses de frites.
Gisèle, c'est parfois dur, je suppose, d'avoir une vie sexuelle épanouie au milieu des frites et de la graisse.
Oui, c'est difficile. Disons que quand moi j'avais 18 ans, fallait absolument que je me tire de chez moi. Je pouvais plus vivre avec mes parents. J'ai pris le premier venu, c'était Louis avec ses frites. Mais je dois quand même dire qu'au bout de 10 ans, j'en ai marre. Je supporte plus cette odeur. Et du coup, je ne le supporte plus non plus. Et ça se passe plus trop bien, quoi. Je veux partir, j'ai envie de voir des choses. Je suis sûre que la vie, c'est autre chose. C'est pas que les frites, la vie. C'est pas l'huile, c'est pas cette odeur. Je veux sentir l'air frais, l'air pur. Je veux avoir du vent sur mes cheveux, voilà.
Un extrait du film Camping Cosmos de Yann Bucquois, qui est la suite de La vie sexuelle des Belges, pour ceux qui connaissent. Elle ressemble à quoi la baraque à frites de votre enfance, Éric Dupond-Moretti, ou la baraque à frites que vous avez fréquenté le plus ou...
Ben, j'allais dire une baraque à frites, c'est-à-dire quelque chose de brick and block, une camionnette, ouais, avec des bactéries, et puis que l'Europe on irait sans doute dans un décret à venir avec du gras de bœuf vieilli, c'est ça qui donne le goût. Enfin, on doit pas savoir ce qu'on mange quand on va à la friterie. D'abord, on y va souvent. Enfin, moi, j'y allais, c'était 5-6 heures du matin. Ouais, au sortir de virée nocturne, et voilà. Et puis, il y avait toutes les sauces, on sait pas non plus comment elles sont faites. Et puis, les espèces de charcuterie, là aussi, c'est.
Les fricandelles,
voilà, c'est ça, ouais, c'est voilà, ça. Bien sûr, oui. Elles servent là aussi.
C'est donc un bastion de résistance de l'hygiénisme.
Mais absolument.
On est d'accord. Est-ce qu'il faut réinventer l'architecture de la baraque à frites pour que la baraque à frites puisse affronter le futur et un monde de plus en plus complexe, que la frite puisse affronter, c'est ça, les transformations, le numérique.
On n'a pas fini. L'hygiénisme, et puis c'est une espèce de truc là, comment dirais-je, quand on a mangé des frites à l'ancienne, on est immunisé d'une certaine façon, on est vacciné quoi, pour plein de trucs. Bon, alors là, ils veulent faire, je trouve ça triste, moi.
Oui, moi aussi.
Ah, ouais.
Hein. On préfère la vraie, la
vraie,
camionnette.
C'est ça, oui.
Ouais, voilà, c'est
camionnette,
ça.
Oui.
Il y en a encore des qui bougent, c'est-à-dire, il y a des qui se baladent.
Oui, c'est
donc,
ça.
Donc celle-là, c'est
pas
encore les vraies.
Un truc futuriste, on s'en fiche, bon. Quoi. Enfin,
bon, à la foire du midi.
Progresse très très vite.
C'était hein, la frite c'est de ça, Proust.
Avec les types qui veulent tout réglementer sur la vie des autres.
Éric
ils veulent
nous
faire bouffer des frites maintenant. Bah, voilà, c'est ça.
Il avait rien dit, monsieur Moretti. Il avait envie de parler, on le voyait bien.
Vous qui avez joué dans un film de Lelouch.
Vous qui êtes comédien, en fin d'émission, on propose un sketch à l'invité. Il découvre le rôle. Je vous connais, vous pouvez changer le texte si ça vous fait pas plaisir. Mais attention, on revient au procès de ce pauvre homme qui a tondu la pelouse de sa voisine. En étant ivre. Alors on s'est dit comment ça peut se dérouler, comment on le défend. Vous seriez évidemment l'avocat de la défense et Charline Procureur, Hippolyte Girardot et le président des tribunaux.
Silence, silence dans la cour, la parole est à l'accusation. Madame la procureure, si vous voulez bien.
Merci monsieur le président. Alors je commencerai par rappeler que le droit de propriété est une base de notre société.
Poursuivez.
En tondant la pelouse de ses voisins, monsieur Duchemol a violé ce droit fondamental. Est-ce qu'elle voulait être tondue cette pelouse?
Ah oui, elle a raison.
Je demande le silence dans la salle.
Alors, on aime acclamer mon corps, mon choix. Eh bien c'est valable aussi pour les jardins, mon gazon, mon choix.
C'est très juste.
Silence.
Et personne ne peut obliger madame Lahaye à tondre son gazon. Voilà.
C'est ça.
Monsieur Lahaye, calmez-vous là.
Non mais cette injonction du gazon parfaitement tondu est inacceptable. Vive les gazons touffus.
Oui, enfin, on s'égare peut-être là.
Non, alors je requiert donc la plus grande fermeté.
Merci madame la procureure, la parole est à la défense.
Monsieur le président, messieurs les jurés, madame la procureure, votre analyse est brillante, comme vous.
C'est parti, ça y est, va nous embobiner lui.
De quoi est-il question ici? On reproche à mon client d'avoir tondu la pelouse de ses voisins.
Parfaitement.
Pour comprendre ce geste, il faut remonter à l'enfance de mon client.
Ah et voilà, ça y est.
Il a grandi dans un appartement dans une cité HLM. La première fois où il a vu un jardin, c'était à 15 ans.
Oui, c'est ça, bien sûr, on est chez les Dardennes, là.
Et ce fut pour lui... Un émerveillement.
On s'en fout, la peine de mort.
Mais calmez-vous, maître.
Entre deux fausses couches, sa mère travaillait l'uranium en fusion à main nue dans une centrale nucléaire du nord de la France.
Oh putain, même moi, il me fait chier, allez.
Depuis, il ne jure que par un jardin bien tondu, au point de s'occuper de ceux des autres sans demander un seul euro en retour.
Ça manquerait plus que ça.
Alors je vous le demande, on ne devrait pas plutôt le récompenser?
Jamais.
Ah mais silence. Autre chose, maître?
Oui, je voudrais faire intervenir un témoin, l'épouse de mon client.
Très bien. Jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité?
Oui, je le jure.
L'entièreté de la vérité, l'intégralité de la vérité, la totalité de la vérité?
Mais oui, merde!
Bon, bah alors on vous écoute.
Mon mari a un léger problème avec l'alcool, alors que moi, je ne bois que des jus de fruits.
Quel beau couple et complémentaire!
Quand mon mari a bu, il n'est plus lui-même. Son comportement devient très étrange. Il lave la vaisselle, il passe l'aspirateur, il prépare la cuisine.
Ah, en effet, oui, c'est une circonstance atténuante. Monsieur le tribunal vous dispense de prison, mais vous condamne à visionner les trois premières saisons de Silence, ça pousse.
Merci, maître Éric Dupond-Moretti, d'avoir passé cette heure avec nous où on a changé le monde. Je rappelle que vous pouvez entamer si vous voulez faire la première partie de Guillaume Meurice, oui. N'hésitez pas, ouais. Ou réciproquement. On va vous laisser échanger les numéros. Je rappelle, Éric Dupond-Moretti, la parution de votre dictionnaire de ma vie, paru aux éditions Kéro. Allez vérifier s'il y a de la ciboulette ou pas, etc.
Oui, à la fin. Pour
voilà, c'est ça. Soyez vigilants. Merci, maître. Voici le mot de la fin à l'équipe de Fabienne Saint. Que nous avons croisé ce midi à la cantine.